Décryptualité, semaine 23, salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, au sommaire, la gazette.fr, le logiciel libre dans la DMAT, un article de la rédaction.
Donc, qui parle des administrations, des collectivités, et du fait qu'on peut vraiment beaucoup dématérialiser et faire des services publics, donc dématérialisés qui vont être plus efficaces. Et là-dedans, il faut faire du logiciel libre, il faut faire de l'open source. C'est plus efficace pour tout le monde, ça permet de simplifier un peu tout ça. Donc, il y a eu des assises là-dessus, les quatrièmes assises de la dématérialisation. Donc voilà, ça fait plaisir de savoir que là-dedans, le logiciel libre a une certaine importance.
Ouest France, Pougne-Hérisson, défendre la neutralité du net, un article de la rédaction. Pougne-Hérisson, c'est quoi ce logiciel ?
Non, c'est un petit village. J'y étais il y a deux semaines parce que le gars qui est sur la photo, c'est un collègue à moi, donc c'est Simon Descarpentries.
C'est Simon qui est déjà intervenu il y a un peu longtemps maintenant, mais il est déjà intervenu chez nous dans le podcast.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est un grand défendeur du logiciel libre, de la neutralité du net, et il travaille avec FDN notamment, et il continue. Et là, il présente une entreprise, un logiciel qui fait de la revue de presse et de la recherche, on va dire. Donc c'est un petit truc qu'il lance, c'est un moteur. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va grossir et il va prendre la place de Quant incessamment sous peu.
Et il s'appelle Metapress, on peut quand même
exactement
le citer. ZDNet France, pourquoi le travail acharné et la faible rémunération stressent les mainteneurs de logiciels libres, à un article de Steven Givon Nichols.
Oui, et alors bon, bah, le titre est un peu rigolo parce que travail acharné, faible rémunération... Et ça stresserait quelqu'un, bah je voyons
on se demande
voir.
Vraiment pourquoi, ouais.
Alors là, on est étonné, hein. Mais ouais. Effectivement, ils mettent le doigt sur un truc. Bah, t'aimes bien aborder ce sujet-là, ouais. C'est pas nouveau. On a déjà parlé de cela. Oui, il faut contribuer au développement, et pour ça, il faut aider les développeurs. Et dans le logiciel libre, donc, il y a beaucoup de motivation intrinsèque à faire du logiciel libre et à contribuer à des outils éthiques. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui le font sur leur temps libre, volontairement, et c'est très bien, et ça ne s'arrêtera pas. Mais à un moment donné, il faut aussi essayer de faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur art. C'est pas simple. Et en plus de ça, c'est terrible parce qu'il y a des espèces de seuils. C'est-à-dire que si on donne beaucoup d'argent à quelqu'un qui fait du logiciel libre, il le fera peut-être un peu moins de manière volontaire. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que ça devient un travail, hein, tout simplement. Et en fait, voilà, il faut trouver le bon niveau. Et il faut, si on en fait un travail réel, il faut continuer à avoir des motivations extrinsèques. Donc un travail, ça veut dire qu'il y a différentes conditions autour de cela qui doivent s'appliquer et qui doivent être bonnes.
Numérama, tous anti-Covid vérif. Pourquoi l'app vérifiant les données du pass sanitaire fait polémique ? Un article de Julien Lausson.
C'est un gros sujet là qui est apparu. Alors tous anti-Covid, on en a déjà parlé. Et là, effectivement, on est en train d'arriver dans cette phase où on veut suivre un petit peu les gens, leur capacité de santé. Donc suivre, est-ce que vous êtes vacciné ? Est-ce que vous avez déjà eu le Covid ? C'est quoi vos derniers tests ? Eh bien, pour vérifier tout ça, il faut aussi une application. En tout cas, c'est ça qui est mis en avant. Et cette application, elle existe. Elle est déjà déployée sur Google Play. Elle s'appelle tousanticovid-vérif. Et c'est une application qui n'est pas destinée au commun des mortels, ni à toi, Luc, ni à moi, Emmanuel. C'est une application qui est destinée à des professionnels. Donc, je ne sais pas, moi, vous êtes dans une salle de concert. Il y a un professionnel sur son téléphone. Il a tousanticovid-vérif. Et il va scanner votre téléphone pour vérifier que vous ayez bien les vaccins. Malheureusement, cette application Tous Anti-Covid Vérif n'est pas du logiciel libre, mais en plus, ça s'appuie sur des logiciels propriétaires de type GAFAM. Hein. Il y a des outils Google là-dedans. Et le petit détail qui tue, c'est que Tous Anti-Covid Vérif permet de consulter sur votre état de santé lié au Covid, permet d'avoir accès à des informations privées. Parce qu'on a dans nos certificats embarqués, on a des informations nom, prénom. Alors je crois qu'il y a l'adresse, il y a différentes choses là-dessus. Eh bien, les gens qui vont vérifier votre état vont pouvoir accéder à tout cela. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et puis, l'application elle-même n'est pas du logiciel libre. Elle n'est pas déployée en tant que telle. Si vous allez sur Google Play, vous devriez pouvoir la trouver et pouvoir l'installer vous-même. Mais on vous demandera de ne pas l'utiliser parce que vous n'êtes pas un professionnel. Vous n'avez pas le droit d'y avoir accès. Donc, c'est un petit peu problématique. Et on espère qu'ils vont travailler en faire du logiciel libre et peut-être à vérifier un peu la chaîne pour chiffrer un peu mieux les données, ne pas donner accès à tout le monde.
Dernier article qui va être notre sujet de la semaine. Next Impact, en bonne santé, l'open source français doute de la stratégie de l'État sur la souveraineté. Un article de Vincent Herman.
Alors oui, mais ça commence sur un sujet qu'on a déjà abordé, le CNLL et la publication d'une étude qu'ils ont fait auprès des entreprises du logiciel libre.
Exactement, l'article de Next Impact qui est un article payant, est un long article donc qui rentre vraiment en détail sur ce qu'il y a dans le rapport. Alors, le rapport du CNLL, on peut aller le lire directement aussi, si on est intéressé par ce sujet-là. Donc, il y a plein de choses là-dedans. La bonne nouvelle, c'est déjà que les entreprises du libre se portent bien. Donc, ça, c'est intéressant.
Elles se portent même un peu mieux qu'avant le Covid, hein, globalement.
Oui, ouais, une des choses qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils sont assez peu spécialisés sur des marchés particuliers ou des types de clients. Ils travaillent tout autant pour le privé que le public. Ils ne sont pas nécessairement bloqués sur un domaine comme la finance ou des choses comme ça. Et donc, du coup, ils se sont a priori plutôt mieux adaptés à la crise que les autres. On retrouve des choses qu'on sait depuis longtemps, notamment le fait que les informaticiens qui arrivent sur le marché du travail ont été arrosés avec du Microsoft abondamment, des licences pas chères dans leurs écoles d'ingénieurs, machin, etc. Et que du coup, il y a toujours des pénuries de compétences dans les technos libres, alors que ça croît à grande vitesse et beaucoup plus vite que le logiciel propriétaire. Voilà, il y a plein d'infos de ce type-là.
Beaucoup de petites entreprises qui ont l'air de faire du logiciel libre, donc ça fait un marché un peu original comparé à d'autres économies, d'autres lieux économiques.
Voilà, également, non, c'est pas systématique, mais une prépondérance du travail au niveau européen, où les entreprises du libre françaises travaillent en France et beaucoup avec les clients en Europe. Donc on a quand même cette dynamique économique interne où ces entreprises-là contribuent à la prospérité du périmètre européen. Alors que quand on va donner nos sous à un GAFAM qui fait de l'évasion fiscale en toute légalité, presque, vaguement, hein, ils sont quand même rattrapés assez souvent par le fisc, c'est de l'argent qui sort du circuit économique puisque il va être évacué de la zone européenne.
Oui, c'est ce qui ressortait aussi de l'étude du CNLL, c'est que les entreprises françaises qui font du logiciel libre étaient un peu embêtées parce qu'elles voyaient bien que les GAFAM étaient un des gros acteurs qui piquaient un petit peu ce marché, qui en slack apparaît, et que c'était un peu énervant de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien des institutions, des collectivités, qui n'allaient pas assez dans les marchés locaux, quoi, tout simplement, aller trouver des fournisseurs du coin.
Et c'est en lien avec un autre sujet de l'actualité donc, qu'on évoquait dans la revue de presse là, depuis un paquet de semaines, qui est la mise en place d'un nouveau dispositif de cloud de confiance, en quelque sorte. Donc, on aime bien se moquer de temps en temps du cloud souverain, qui était un truc qui avait été financé par Sarkozy, où on a retrouvé toutes les grosses boîtes françaises habituelles qui ont mangé tout le pognon pour accoucher de rien.
Elles ont été arrosées, c'était des gens de confiance, oui, qui connaissaient depuis longtemps, qui venaient des mêmes écoles, des mêmes milieux. Et donc oui, ils ont arrosé, voilà.
C'est ça, et puis on a à l'époque ignoré les PME françaises qui travaillaient déjà sur le cloud.
Pire qu'ignoré, donc, elles ont été attaquées parce que on a piqué de leurs ingénieurs, de leurs compétences et de leur marché.
Et donc là, il s'agit de revenir. Donc une des raisons pour lesquelles on revient sur cette idée, et là on n'est pas dans du cloud souverain, mais dans du cloud de confiance.
Rien à voir donc.
Oui, rien à voir. Donc, une des raisons pour lesquelles ils se lancent là-dedans, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne avait invalidé le Privacy Shield, qui était une sorte d'accord entre l'Europe et les États-Unis, où on disait, on s'est entendu entre amis, et les grosses sociétés américaines, on peut leur faire confiance, elles vont respecter les droits européens, et donc, allons-y gaiement.
Et pourtant, on savait depuis Snowden que les sociétés américaines étaient des outils d'espionnage pour les institutions américaines.
Avec ce côté de dire, on vous a bien espionné, mais maintenant on va faire un petit accord sympathique pour dire que, on va être gentil. Et donc, il y a quelques temps, la Cour de justice de l'Union européenne a dit, votre accord ne tient pas la route, on n'en veut pas. Et il a été invalidé. Et donc, c'est aujourd'hui pour ça qu'il y a ce besoin d'avoir un cloud de confiance.
Petit détail, les acteurs de ces clouds de confiance, donc plutôt européens, francophones même, en fait, ce sont des acteurs qui sont largement liés avec des acteurs américains.
Et c'est ça qui fait scandale. Alors, on rappelle déjà le Health Data Hub, donc solution d'hébergement des données de santé des Français, où la solution retenue, ça a été de foncer chez Microsoft, ce qui avait déjà fait scandale, on en a parlé abondamment dans la revue de presse. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, l'idée, c'est que c'est l'ANSSI, qui est l'Agence Nationale de
Sécurité des Systèmes d'Information, un truc comme ça.
Ça doit être ça. Doit, en gros, donner son label de confiance à des solutions de cloud. Ça intègre la possibilité pour des entreprises américaines de vendre sous licence leur technologie à des acteurs français. Et donc, du coup, dans ceux qui se sont alignés pour le moment, on a Orange et Capgemini monté une société tous les deux qui s'appelle Bleu. Et évidemment, ça fait référence à Azure, qui est la solution de cloud de Microsoft, et où ils iraient exploiter des technologies de Microsoft. Et de la même façon, on a une boîte donc OVH Cloud qui exploite des technologies de Google. Donc selon cette même logique, le gouvernement derrière a dit les meilleures technos, elles sont aux États-Unis. Donc du coup, on ne veut pas s'interdire d'utiliser les meilleures technos. Et on veut pouvoir les utiliser sous licence. Donc l'idée, c'est que les entreprises françaises payent des GAFAM pour récupérer leurs technologies et les utiliser.
ça fait rager. Et puis alors, faut pas rêver, à un moment donné, quand on travaille comme ça en accord avec d'autres entreprises et qu'on utilise leurs solutions, on va donner des accès d'une manière ou d'une autre. Et puis on sait aussi qu'on ne maîtrisera jamais aussi bien que ceux qui fournissent la technologie de base. Et donc, ça laisse très certainement des possibilités de passer par soit des portes dérobées, mais ça, c'est quand même extrême, soit simplement des failles qui ne seront pas encore révélées. Et les failles, on en parle plusieurs fois, les failles zéro jour, zéro day, les failles qui viennent juste d'être connues par quelqu'un, mais qui ne sont pas encore révélées à tout le monde. Et ça, les États-Unis, ils ont accès en premier lieu. Et on sait qu'ils les fournissaient à la NSA, notamment. Donc, bah, y aura toujours moyen de passer par ça.
Oui, oui, tout à fait. Et après, dans les gens qui réagissent à ça, il y a des entreprises du libre, notamment. Donc, le CNLL, dans son étude, en parle, hein, bien sûr. Il y a notamment une entreprise qui s'appelle Scaleway, qui a fait pas mal de bruit là-dessus et qui critique beaucoup cette solution hybride.
Alors, Scaleway, c'est la deuxième plus grosse boîte qui fournit du cloud aujourd'hui en France.
Dans ce qu'ils disent, ils s'inquiètent notamment des métadonnées en se demandant si ces solutions hybrides permettent vraiment de mettre les métadonnées à l'abri des GAFAM et du coup de la NSA. Il y a eu des tribunes avec cette idée que l'État a abdiqué et intégré le fait que bah, on n'était pas les meilleurs et que voilà, il fallait payer sa dîme aux grosses sociétés pour monter nos propres services. Ce qui a une certaine logique du point de vue de l'État quand on voit l'échec qu'a été le cloud souverain. C'est-à-dire qu'eux, ils ont mis des sous dans la table en se disant on va se faire nos propres technos. Ça n'a accouché de rien dans la bonne logique voilà, de ces grosses sociétés bien lourdingues. Et donc du coup, aujourd'hui, ils disent bah, puisque ça n'a pas marché la dernière fois, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Bah cette fois, on va acheter les bonnes technos qui marchent chez nos fournisseurs habituels. Dans le contexte, on rappelle, et c'était dit également par les intervenants, il y en a d'autres, hein, là on parle d'Escalway, mais il y en a plein d'autres, notamment autour du libre. Ça a été rappelé récemment que la NSA avait notamment espionné Angela Merkel via le Danemark, et que l'espionnage américain, ça continue à être une réalité, et qu'on est en train de rester dans le giron des États-Unis.
Oui, et qu'en gros, hein, ils n'hésitent pas à espionner des dirigeants européens. On sait aussi qu'ils n'hésitent pas à utiliser toutes les informations qu'ils peuvent glaner pour faire de l'espionnage commercial, financier, industriel, et qu'ensuite, il n'y a rien de tel d'utiliser ces outils-là, ces informations-là, pour plier les volontés des grosses entreprises européennes. C'est quelque chose qui est assez habituel. Là, c'est énervant parce qu'effectivement, ils vont passer par des boîtes françaises. Et en plus, OVH, c'est la plus grosse boîte française, c'est même une des plus grosses boîtes européennes qui fait du nuage. À l'époque du cloud souverain, ils avaient été évités. C'était une petite boîte encore à l'époque. Aujourd'hui, c'est gigantesque. Mais ils ont des compétences, ils sont plutôt locaux. Normalement, ils savent faire du cloud, hein, même si des fois, ils s'envolent en fumée. Il y a des petits échecs.
Une des choses que j'ai retenues et qui fait écho à un des articles de la revue de presse et qui est dans le rapport du CNLL, c'est cette question du financement du développement. Dans le libre, on a souvent, et c'était dit dans l'article tout à l'heure, sur des petits logiciels, mais qui peuvent être des petits logiciels très importants pour les professionnels, on a pas mal de développeurs bénévoles ou qui font ça dans leur coin, avec plein de gens qui utilisent ces logiciels, on en a parlé ces derniers mois, sans financer. Donc on a plein de projets qui sont sous-financés avec des gens qui font des trucs pas nécessairement très marrants, mais qui croient leur mission et qui à un moment se lassent. Et que du coup, les entreprises qui vendent du service sur ces logiciels peuvent effectivement avoir du mal à financer leur développement. On avait parlé ces derniers temps de ces quelques entreprises qui ont changé les licences de leurs logiciels parce que des grosses boîtes, mais c'est le cas des petites, vont utiliser les logiciels sans jamais financer. Et quand on pense justement au résultat de cette analyse du CNLL où on dit les entreprises françaises du libre travaillent très majoritairement à l'intérieur de l'Europe, si on finançait ces entreprises à développer des logiciels, si on mettait en place des dispositifs qui peuvent être des prélèvements sur les entreprises en disant vous utilisez des logiciels libres, on peut faire une sorte de mutualisation de la même façon que c'est fait finalement sur le propriétaire, de façon un peu plus large pour favoriser ces développements-là. Et du coup, on pourrait avoir une boucle très positive de financement et d'investissement, puisque ça profitera à tous les clients qui ont des meilleurs produits et que cet argent restera dans l'économie. Et aujourd'hui, effectivement, on a un peu ce sentiment de « Ah bah, les meilleurs technos, c'est chez les GAFAM, alors on va acheter les meilleurs technos. »
Et oui, et ça coûte cher, et on est bloqué avec ensuite, on ne contribue pas au développement économique local, c'est un peu rageant.
Et il n'y a pas de politique industrielle de développement, en fait. C'est-à-dire qu'on va continuer à aller acheter cher là où c'est mieux, et on va pas se dire, on va se donner les moyens de monter les compétences, de monter les connaissances, et de se dire qu'on veut devenir meilleur et devenir plus indépendant.
Un peu énervant. Luc, je te propose, on continue la semaine prochaine, ou sur un autre, hein, on aura le choix. Je te dis à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, salut.